avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la prison racontée par les familles de détenus entre attente et parloir. C'est une vie passée à imaginer la vie de celui ou celle qui est derrière les barreaux. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons françaises. 72 000 détenus pour 61 000 places opérationnelles. Avec une majorité de personnes en détention préventive, à cause notamment de la lenteur de la justice. Et derrière ces vies, il y a des parents, des enfants, des épouses qui vivent souvent une double peine, soutenir le détenu et le reste de la famille. C'est un reportage de Margot Emmerich aux portes des parloirs. Et ensuite, on en discutera avec notre invité, Gwenola Ricordo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeure chercheuse en justice criminelle aux États-Unis, à l'Université d'État de Californie, à Chico. Vous avez travaillé sur les proches des personnes incarcérées et vous publiez « Pour elles toutes, femmes contre la prison ». Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, vous pouvez, pendant le reportage, poser vos questions, réagir. Vous postez vos messages au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mais tout de suite, on laisse la parole à ceux qui vivent la prison de l'extérieur et que l'on entend si rarement. Direction la Haute-Savoie, où la maison d'arrêt de Bonneville est située un peu à l'extérieur de la ville. Construite en 1969, elle a été rénovée il y a tout juste 10 ans. Elle accueille près de 240 détenus pour 170 places. Des hommes, mais aussi des femmes, très minoritaires, qui reçoivent la visite de leurs proches dans ce qu'on appelle les parloirs. En fait, ce sont de petits box individuels où se retrouve le détenu et son visiteur pendant une heure. À Bonneville, il peut y avoir jusqu'à 3 parloirs par semaine. Et avant d'entrer dans la prison, les proches passent par l'accueil parloir, un petit local juste devant la prison où ils sont reçus par les bénévoles de l'association L'Accueil Famille. C'est là que Margot Emmerich les a rencontrés.
Bonjour.
Bonjour. J'ai mon fils qui est là depuis un an et demi. Je viens 3 fois par semaine, sauf s'il y a des copains ou la famille qui se propose de venir le voir.
Vous allez avoir 3 dedans.
Ah oui ? Votre prénom ?
Oui, Janine.
Comment vous le vivez, ce moment ?
Très, très mal au début. Un petit peu mieux maintenant, mais c'est très, très dur. Il n'a pas l'air traumatisé, mais voilà. On imagine toujours plein de choses qu'on ne sait peut-être pas, qui peuvent se passer et qu'on ne fiera pas.
Ça dure combien de temps ?
La visite, une heure. C'est jamais assez, mais des fois, c'est beaucoup aussi, parce que des fois, on ne sait plus quoi raconter. On ne sait pas si on peut raconter des choses, si ça lui fait pas mal. Voilà.
C'est compliqué pour vous de venir, vous dites 3 fois par semaine ?
J'ai 45 minutes de route aller et autant de retour. Donc une heure et demie de route.
Moi je m'appelle Cyril, je vais voir ma femme qui s'appelle Magali Huet, qui est incarcérée pour 8 défauts de permis, elle a pris 2 ans, c'est vraiment des salopards. Bref, je viens régulièrement, je viens 2 fois par semaine, je viens de Modane, et en fait des fois je suis obligé de partir la veille et je dors dehors pour avoir des connexions en fait. Ça serait bien qu'ils fassent un lieu de famille pour que les familles puissent dormir au moins une nuit pour attendre le parloir quoi.
Comment ça se passe justement ces parloirs en fait ? L'avant, le pendant, l'après
quand... L'avant, toujours la prévention, l'avant, le pendant, c'est bien. Et l'après, c'est encore pire quoi, c'est la tristesse, on pleure pas devant la femme, mais bon après voilà quoi. Moi je rentre tout seul, je suis à la maison, je suis pas bien. En fait, c'est plus dur pour la famille qu'à l'extérieur que pour la personne qu'à l'intérieur. En tant que connaisseur, je vous dis ça. Donc c'est qu'à l'intérieur, on est bien.
Et vous dites l'appréhension avant, c'est lié à quoi ?
C'est les surveillants, regardez, ils ont refusé le parloir à quelqu'un pour un paquet de bonbons. Vous voyez ? Pour les femmes, c'est une folie. Ma femme, quand elle était toute nue, ils lui ont passé le détecteur. C'est vrai qu'on a une histoire, elle s'est fait attraper avec un téléphone, les petits téléphones, que je lui avais ramené de l'alcool. Et puis après, c'est parti un peu en live. Quoi. Elle s'est fait attraper, j'ai eu le parloir supprimé 3 mois, et voilà. Quoi. Pour moi, c'est dur, mais après, voilà, quand on aime, on s'en fout. Même si elle serait à 10 000 km, j'irai, madame. Je vous le dis sincèrement, j'irai, voilà. Ça reste ma femme, et voilà. Quoi.
Ça, c'est le stress de rentrer en prison, vous voyez. Même quand ils sont habitués, il n'y a rien à faire, il y a un stress qui est là et qui fait que... Au dernier moment, on ne se retrouve plus les affaires, on ne sait plus.
Bon, vous avez le temps,
rentre un par un. Evelyne Bouillet, présidente de l'association Accueil des familles de détenus, maison d'arrêt de Bonneville. C'est vrai que c'est une nouveauté, ce bâtiment qui jouxte la maison d'arrêt, puisqu'au départ, à la création de l'association, ce bâtiment n'existait pas. Et puis là, au fil des années, la prison a été refaite à neuf. On est dans des conditions vraiment intéressantes, puisqu'on est juste à côté de la porte d'entrée de la prison. Notre première approche, c'est déjà d'essayer d'expliquer, de renseigner la famille, comment elle peut obtenir son permis, comment vont se passer les visites, dans quelles conditions, comment envoyer de l'argent aux détenus à l'intérieur de la maison d'arrêt et qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sac de linge qu'on apporte à un détenu.
Tout ça, toutes ces informations, elles ne l'ont pas forcément par l'administration pénitentiaire elle-même.
En général, c'est le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est souvent la conseillère qui a fait un premier coup de fil à la famille pour avertir. Mais vous savez, quand la famille, ça lui tombe dessus, souvent, elle ne retient pas la moitié des informations comme ça au téléphone en vitesse. Une fois qu'elles ont obtenu leur permis de visite, donc elles vont arriver ici. Souvent, la première fois, c'est simplement un bonjour, une tasse de café, un verre d'eau, voilà. On a pris aussi un petit peu plus, de charges que la prison prenait avant. C'est-à-dire qu'avant, les familles avaient les casiers à l'intérieur de la prison pour poser leurs affaires. Maintenant, c'est dans notre local. L'administration nous a demandé de gérer ça. Donc, elles vont déposer tout ce qu'elles n'ont pas le droit d'entrer, c'est-à-dire leur sac à main, l'argent, les clés, les téléphones, de manière à rentrer dans la prison uniquement avec une carte d'identité, quelques pièces de monnaie et le sac de linge, quand il y a un sac de linge propre pour le détenu. Ça a l'air de rien, mais passer sous le portique pour vérifier qu'on n'a rien qui est caché, être emmené, déposer son sac, le sac est fouillé pendant que vous êtes au parloir, voilà. Il y a toute une démarche qui fait que, quelque part, vous ne vous appartenez plus non plus. Du jour où je suis venue ici à l'accueil, j'ai toujours dit que les familles vivaient la double peine. Elles vivent la séparation du ou de la détenue, et en plus, elles gardent toute la charge familiale sur leur dos. Et elles vivent avec le souci de ne pas savoir comment ça se passe à l'intérieur. Même si elles le voient au moment du parloir, bien souvent, dans l'entretien du parloir, il y a peu de choses qui sont dites sur l'intérieur de la prison. Souvent, le détenu veut protéger celui qui est à l'extérieur, hein, pour pas qu'il s'inquiète de trop. Et puis, celui qui est à l'extérieur, il n'ose pas trop poser des questions qui pourraient être difficiles pour le détenu.
Donne-lui, moi, je vais en mettre un peu.
Tire-bon pour madame.
Bon pour madame.
Voilà, on en a qui parfument le sac de linge. Il y en a qui disent que la prison a une odeur. Il n'y a rien à faire, la prison a une odeur. Donc voilà, c'est aussi pour masquer un peu ce temps difficile, quoi.
Et alors là, Evelyne, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est qu'une fois que le premier groupe est entré au parloir, vous avez un peu de temps, mais finalement assez peu, avant le suivant qui arrive.
Voilà, par exemple, pour le parloir d'une heure et demie, ils rentrent vers une heure et quart. Ils vont ressortir à 3h moins 20, 3h moins le quart. Et juste à ce moment-là, on aura accueilli ceux qui viennent en train ou en bus. Alors ceux-là, des fois, ils arrivent une heure avant, hein. On a des femmes qui partent d'Annecy le matin à 10h, qui rentrent à 18h pour un parloir l'après-midi à 1h30 d'une heure. Hein. Donc, ça... Et puis de Thonon, c'est la même chose. Hein.
Parce que les personnes viennent effectivement de tout le département, voire de bien plus loin.
Tout le département, d'une part. Et puis on a aussi l'étranger. Hein. On a eu des Belges, on a eu des Espagnols, pas mal de Suisses aussi. Par exemple, on a eu une jeune fille qui venait de Corse voir sa sœur. Hein. Donc là, elle ne venait qu'une fois par mois, un week-end. Donc ce n'est pas simple. Pour ceux qui ont une voiture, ça va encore. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes femmes seules avec des enfants qui n'ont pas de moyens de locomotion.
Bonjour madame. Bonjour. Mais chez vous, parce qu'ils vous ont pris de bonne heure.
J'arrive de Chambéry.
Ah, oui.
Ça roulait beaucoup.
Mais je vous parlais. Aujourd'hui.
Qu'est-ce que je dois faire?
C'est la première fois.
C'est la première fois.
Venez voir, c'est quoi ça?
Ça, c'est ma sandwich pour moi, j'ai pas mangé.
Alors,
c'est
vous mangerez après. Alors. Prenez votre carte d'identité, un petit peu de pièces de monnaie si vous voulez acheter à l'intérieur pour manger avec lui ou avec elle. Je sais pas qui vous venez voir. Là, vous avez rien.
Ça, ce sont des affaires que j'apporte justement.
Mais c'est tout autorisé, vous aviez la liste.
Normalement, j'ai la liste, c'était tout autorisé. Oui.
Bon, est-ce que vous avez mis le nom?
C'est pour moi,
j'ai assez d'argent.
Non, tu peux récupérer vite le gros feutre dans le. Pour qu'on lui mette au moins le nom. On lui mette au moins le nom.
Voilà. Je vous donne donc
le sac.
Le sac.
Vous avez bien vidé vos poches, rien dans vos poches.
Ah, j'ai pas de couteau, surtout. Monsieur, ça va être un couteau. Alors, dites-moi le nom.
Oui, elle arrive.
Dites-moi le nom.
J'arrive, 35843. Alors, vite, j'arrive de Chambéry.
Je ne sais pas si vous le prenez.
Merci beaucoup.
Ah, putain. J'arrive là, il me dit, je vais vous parler, il n'y a pas de parloir pour vous.
Il lui a annoncé qu'elle n'aura pas parloir parce qu'il a un rendez-vous médical, donc il va être transféré à un rendez-vous médical, mais ça, ils ne le disent pas avant.
C'est la dernière minute.
Ils ne peuvent pas.
Je me doute, les transferts, sa sécurité, ils ont peur que les copains attendent au coin de la rue avec des flingues, je ne sais pas si ils imaginent. Ah, c'est les lois.
Vous ne voulez pas qu'on regarde.
Je vais regarder si des fois, la mardi, mais...
Si des fois, il y a une possibilité.
Il y a une place.
Ouais. Est-ce que ça peut être plein?
Ah oui, ben, quand tous les parloirs sont pris.
Il y en a 7. Ce qui fait mal au cœur,
il y en a combien ?
7.
Pour combien de détenus ?
Grosso modo, 250-260.
Sa première fois d'ailleurs. Ils ont fait une IRM de la colonne, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose de grave. Je sais pas. S'il revient pas trop tard, il va essayer de m'appeler. Le téléphone est écouté et enregistré. Le seul endroit où on peut vraiment se parler, c'est dans le parloir. Parloir, c'est une heure ici, encore ça va. Quand j'entends dire qu'à Eton ailleurs, c'est trois quarts d'heure, voire à certains endroits, c'est une demi-heure. Ça fait du bien de se voir, de se parler. Pour eux, c'est vital de voir la famille. Puis il y a le linge, on apporte du linge propre.
De quoi est-ce qu'on parle? Lui vous raconte son quotidien?
Très peu. Je ne sais pas les autres, mais il a du mal à en parler. Moi, je trouve que c'est ça le pire, de ne pas savoir. Parce qu'en fait, on se fait du souci mutuellement l'un pour l'autre. Et moi, je parle beaucoup de l'extérieur, de la famille, de tout, pour les relier. Parce qu'en fait, l'enfermement, ils perdent des repères. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Ici, ils ont la télé, donc ils savent les infos, ils savent ce qui se passe. Mais on sent quand même qu'ils sont bien coupés de... coupés des autres, de la société. Hein. C'est fait pour. Hein. Si, il me dit les problèmes qu'ils ont dans les cellules, parce que ça dépend avec qui ils tombent. Là, c'est surchargé, il va faire chaud, ils sont trois.
Trois dans la même zone.
9 mètres carrés. Et l'un qui dort par terre. Ça va, il a un lit, puisqu'il a archi mal au dos. Ça va, ils ont une petite douche dans la cellule, ça c'est bien au moins. Comme ça, ils peuvent se doucher quand ils veulent et tout, c'est bien. Mais il me dit qu'on ne peut pas se remuer. Et donc l'enfermement, c'est ça, c'est long. Enfermé 22 heures sur 24. Moi, j'ai l'impression que je suis en prison aussi. La famille, elle, on le vit mal. Surtout là, avec mon mari, on est très très liés. Quand j'ai su qu'il était là, je vous garantis, je ne pleure pas facilement. J'ai pleuré, j'ai cru que j'étais devenue veuve. J'ai vécu ça comme si j'étais devenue veuve, comme si je l'avais perdue. Honnêtement, franchement, c'est pas facile à vivre. Parce que les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils seraient assez vite à vous juger, vous voyez. Ça isole. Oh, c'est peut-être moi aussi qui vais m'isoler. Hein. Je dis, dans les débuts, je n'osais plus de sortir de chez moi. J'ai l'impression que c'était marqué sur ma tête, comme si j'avais honte. Et puis vous voyez que les juges, la justice, c'est même pas la peine. Ils font comme si la famille, je sais pas, ça n'existe pas. La famille, elle souffre pas. Il y a des situations où vous croyez jamais que vous allez pouvoir surmonter. Puis finalement, vous arrivez à vous adapter. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Vous allez faire quoi? Si vous baissez les bras, vous allez faire quoi? Il faut être là pour les soutenir. Hein.
Nous quittons à présent la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie pour rejoindre la prison de Roanne dans le Rhône. Il s'agit cette fois d'un centre de détention. Les détenus sont transférés là depuis les maisons d'arrêt quand ils sont jugés et quand leur peine dépasse 2 ans. Alors dans les centres de détention, contrairement aux maisons d'arrêt, il y a peu de surpopulation. Les détenus sont pour la plupart seuls en cellule. Et si en maison d'arrêt on compte beaucoup de trafic de stupéfiants ou de délits plus minces comme des infractions en récidive au de la route, eh bien, en centre de détention, on trouve de plus grosses peines liées à des braquages armés, du trafic organisé ou encore des homicides, des assassinats. À Roanne, comme à Bonneville, la prison comporte un quartier pour les femmes, mais il faut savoir qu'elle représente moins de 4% de la population carcérale en France, une inégalité pour une fois heureuse. Néanmoins, elles sont beaucoup moins visitées que les hommes. C'est ce que nous explique le président du groupe local d'accueil des familles, Guy Cherpin.
On estime qu'il y a environ 10% des femmes qui sont visitées, les femmes détenues. C'est curieux, mais je pense que dans l'esprit des gens, on admet plus facilement l'erreur de parcours d'un homme que l'erreur de parcours d'une femme. Et c'est vrai aussi que, malheureusement, les femmes sont souvent condamnées pour des crimes de sang. Tout au moins, à Rouen, là, il y a des personnes qui sont condamnées pour avoir tué soit leur compagnon, leur amant ou leur mari, peu importe, ou même infanticide.
Ce sont des personnes qui sont effectivement moins visitées, voilà. Peut-être plus en rupture familiale aussi.
Oui, tout à fait. Pour les hommes, le début du parloir est à 8h30 jusqu'à 9h30. Le deuxième tour, donc 10h15, 11h30. Quant aux femmes, le matin, il n'y en a qu'un. Pour les femmes, les parloirs durent plus longtemps, ils durent 2 heures.
Ah oui.
On a quand même des personnes qui peuvent venir de Marseille ou de Colmar. Et tout de suite, en général, les jeunes femmes, on les voit arriver, se dépêchent d'aller aux toilettes, elles se maquillent, elles se changent, elles se font belles. Voilà. Je leur reconnais beaucoup de courage à ces femmes. Parce que dans le ménage, quand c'est le mari qui est incarcéré ou le compagnon, il y a un salaire en moins. Et venir au parloir, ça coûte de l'argent. Et elles sont toujours fidèles et présentes. Et je pense à une, entre autres, qui a été incarcérée ici avec son mari. Elle a été libérée, mais elle vient toutes les semaines voir visiter son mari. Samedi 4, hein. Ah ben c'est aujourd'hui, 25 personnes. Cet après-midi, je pense que ça risque d'être plus. On voudrait qu'ils avertissent les familles quand il y a un transfert. Parce qu'il y a des familles, le détenu est transféré à Pétain-Ouchenoc, comme je dis, et la famille n'est pas avertie, elle vient par voir. Maintenant, il n'est plus là.
Et puis là, c'est noté qu'elle venait de Lyon, c'est pas non plus la porte à côté.
Ben oui. Ah bon,
d'accord.
On va les faire un
peu. Ouais, volontiers.
Bonjour.
Alors, moi, je viens voir mon conjoint et le papa de mes enfants, donc. Hein. Donc, on vient depuis 2 mois ici, à peu près. Avant, il était incarcéré sur Privas, donc voilà, il a été transféré il y a quelques mois, là.
Vous avez combien de temps de route ?
2h30, 3h, à peu près. Ah ben là, avant, c'est sûr que je faisais 2 mètres, j'y étais, j'allais le voir 2 fois par semaine. Et là, voilà, je le vois moins, il y a la route, il y a les frais, donc c'est compliqué, quoi.
Et lui, il vous raconte un petit peu comment ça se passe dedans ?
Oui, mais bon, après, c'est une prison, quoi. Donc là, ils sont enfermés toute la journée. Ils sortent 1h30 par jour. Donc voilà, c'est pas facile.
Et vous, madame, vous l'accompagnez, c'est ça ?
Voilà.
À chaque fois ?
Oui.
D'accord. C'est du soutien.
Voilà.
Bon, merci beaucoup.
En de rien.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
David. Et mon fils a été transféré ici. Il était à la maison d'arrêt de Corba.
Donc il faut faire la route à chaque fois.
Oui, il ne faut pas les laisser tomber. Ouais, c'est un mauvais moment à passer. Après, ça va aller. On n'a pas le choix.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe ? Comment vous vous sentez quand vous venez ici, justement ?
Eh bien, comme des parents qui ont un enfant qui est détenu. Et puis voilà, on fait avec. Voilà, on emmène son petit-fils également. Et puis voilà. On va faire celui-ci de ce matin et cet après-midi. Et ma femme revient le mercredi également. Comme elle ne travaille pas, donc elle a du temps, un peu du temps, donc elle vient.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous ?
Le plus dur, on emmène son fils une semaine sur deux. Et voilà, et il ne comprend pas encore trop comment ça se fait que son papa est là, quoi. Après, il ne comprend pas trop. Ça fait déjà 20 mois qu'il est incarcéré, son père. Donc il ne comprend pas trop le petit pour l'instant.
Ouais, comment on explique, effectivement.
Ouais, mais là, il devrait pas tarder de sortir maintenant. Il reste encore quelques mois. Il a une activité, il a une société tout dehors qui est faite depuis déjà des années. Donc après, il va reprendre ses bases, quoi. C'est juste une petite parenthèse. Enlève là la titine.
On en vient à gérer beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues.
Ouais. Puis on vieillit, c'est fatigant. Hein. On a été le chercher avant-hier, on a été chez un autre de nos petits-enfants hier. Puis on va le ramener ce soir, parce que c'est prévu qu'on le ramène ce soir aux alentours des 20h. Aix-en-Provence. Donc on sort d'ici, on part à Aix. Ça fait du bazar. Hein. Il y a toute la famille qui fait de la prison. Il n'y a pas que le détenu. Tout le monde est impliqué, à moins de laisser les enfants, mais c'est pas la solution. Hein. On se rattrape là-dessus, on dit qu'il faut mieux ça que la mort. Mais l'être humain est drôlement fait. L'être humain, il est fait pour se mettre à toutes sortes d'obstacles. J'aurais jamais pensé d'avoir un fils en prison. Et on a la chance de ne pas avoir un gamin faible. Donc il se fait respecter parce que c'est un peu la loi du plus fort hein, là-dedans aussi. Hein. Il y a des gens qui disent on va voir leurs enfants au cimetière, mais nous on vient le voir là, puis voilà. On a une chance quand même malgré tout ça.
Bon. Alors à quelle heure est-ce que vous y allez?
Ben, je sais pas, là, dans pas longtemps, normalement, là, à 10h je pense.
Tu vas aller où mon prince?
Papa.
Tu vas aller voir qui?
Gouga.
La Gouga, c'est la grand-mère. Merci mademoiselle.
Bon courage.
Oui, voilà, merci.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, la prison racontée par les proches des détenus. Maintenir le lien entre les barreaux de l'incarcération, c'est une épreuve, c'est une lutte, un courage et surtout une infinie pudeur devant le micro de notre reporter Margot Emmerich. Direction maintenant le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavie en Isère. Il rassemble un centre de détention qui accueille beaucoup d'agresseurs sexuels et une maison d'arrêt dans laquelle sont emprisonnés de nombreux détenus pour des délits liés aux infractions au code de la route, en lien souvent d'ailleurs avec la prise d'alcool ou de stupéfiants, ou encore pour des violences volontaires. Conséquence, à l'accueil par Loire, beaucoup de familles se croisent, se connaissent, se reconnaissent. Et d'ailleurs, on va l'entendre, les femmes vont jusqu'à parler d'une famille par Loire.
Non, c'est un proche, c'est mon proche qui fait rire avec l'incarcération, c'est compliqué. Voilà. Moi, c'est mon fils.
D'accord. Et vous venez souvent?
Dès que je peux. J'essaie minimum une fois par semaine. Ou là, ou bah, en ce moment, deux fois par semaine, dès que je peux. Et après, je vais travailler à Saint-Étienne.
Ça, c'est moi.
On vit l'incarcération limite autant que, quoi. Si c'était pire, parce que dehors. Encore, moi, ça va, je suis que maman, mais je vois les femmes et tout ça, c'est l'enfer, quoi. Il y a double peine, en fait. Le fait de ne pas avoir son enfant, et puis il y a toute la société derrière, les jugements des gens et tout ça, donc on finit par un peu se... pas s'isoler, parce qu'on fréquente d'autres personnes, du coup, il y a une famille parloire, si on veut, voilà.
Vous l'avez dit autour de vous?
Je n'ai pas dit à ma mère, parce que, bon, elle est vraiment malade, mais oui, la plupart des gens le savent. De toute façon, quand on a un enfant qui arrive là, ils n'y arrivent pas par hasard. Hein. Moi, c'est la deuxième fois qu'il est incarcéré, donc le jugement, j'ai passé outre et... On est obligé de le dire parce que au niveau du travail, au niveau parce que tout le monde passerait notre temps à mentir, donc c'est pas une solution. Donc moi j'ai préféré dire la vérité tout de suite et voilà, après les gens ils en pensent que. Personne n'est à l'abri en plus, hein, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment.
Il y a des hauts et des bas. Avec des enfants, c'est pas facile. Et voilà. Et c'est ça la vie, hein. C'est la vie continue pour nous. On est comme une famille. Hein.
C'est
on
ça,
se
ouais.
voit presque tout le temps, ouais. Parce qu'on connaît Angelina aussi. Super bien, super gentil. Et on connaît aussi Mamie. Mamie qui est là-bas, elle est très très gentille.
Mamie, c'est Danielle, l'une des plus anciennes bénévoles de l'accueil à Saint-Quentin. Et on peut dire que depuis son bureau, elle a eu le temps d'observer et d'apprendre à connaître un peu tout le monde.
La dame qui est habillée, qui avait une grande robe beige, qui était avec un voile, elle est de Boussa Adam, elle vient d'Algérie. En fait, il y a beaucoup plus de femmes qu'il n'y a d'hommes. Vous avez pu voir, d'ailleurs, il n'y en avait qu'un. Et principalement des jeunes femmes, vous avez vu, des épouses. Les personnes d'un âge, c'est souvent un fils qu'elles viennent voir. Elle, c'est un fils qu'elles viennent voir. Ils aiment raconter. Je sais que ça leur fait du bien, et bien qu'ils racontent. Il y en a une qui va venir là tout à l'heure, c'est Martine. Elle a trois fils, quand c'est pour l'un, c'est l'autre. Quand elle n'est pas à Corba, elle est à Saint-Quentin. Il y a tout le temps un problème. Conduite sans permis, conduite en état d'ébriété. Bagarre avec leur bonne femme, ils changent. Celui-là, ils viennent se prendre 22 mois.
Ça fait combien de temps que vous faites l'accueil?
Ici, je suis bénévole, ça doit faire une dizaine d'années.
Bonjour,
bonjour, bonjour.
Bonjour Daniel.
Salut.
Oh.
Je connais la musique. Hein.
Ça fait combien de temps que vous venez?
10 ans au moins.
Venez Martine.
Que je fais des parloirs sans arrêt. Merci, Daniel.
Oh oui. Mm.
Pour vos fils, alors?
Oui, mes deux fils. Alors, là, c'est mon fils le plus petit. Mais lui, c'est souvent qu'il vient là. À 50 ans, il était déjà là en 2017. Donc, je viens le voir régulièrement, une ou deux fois par semaine. Parce que moi, j'avais fait Corba aussi. Mon fils, qui est ici, d'ailleurs, était à la Corba. C'est plus familial ici. La prison est plus petite, donc...
Voilà, c'est pour ça que j'aime bien venir à Saint-Quentin, parce que c'est plus familial. Parce que là, moi, la petite, en plus, c'est la première fois qu'elle vient, là, et je sais pas si elle va tenir une heure, quoi, si elle va pas vouloir sortir avant, quoi. Voilà, donc, je m'inquiète un peu, mais on verra bien, hein. De toute façon, va falloir qu'elle s'habitue. Voilà, bon, bah, moi, de toute façon, moi, j'y crains pas.
Vous êtes habitué, mais pour autant, toute votre vie, en fait, c'est un peu, ça fait 10 ans que ça s'est structuré autour de ça.
Bah, ouais, et encore, c'est rien, là. Quand j'en avais deux, j'en avais un corba. Donc, je faisais le samedi matin un corba. Et à une heure, j'avais parloir là pour l'autre. Donc, je cumulais les deux.
Et vous n'avez jamais eu envie de lâcher ?
Non. Non, parce que c'est mes fils. Et mes fils, je ne laisserai jamais, quoi. Parce que moi, je suis trop gentille. Donc, ils profitent de ma gentillesse. Mais bon, je suis une mère avant tout, quoi. Voilà, tout simplement.
Et vous arrivez à supporter ?
Oui. Oui, je supporte. Aussi bien qu'eux, finalement. Ce qu'il y a, c'est que je me suis fait une raison. Et puis, c'est tout, hein. Quand on fait des bêtises, on assume. Donc, eux, ils assument, moi aussi. Quand on est parent, on est responsable quand même. Hein ? Pas de tout, mais on se sent responsable quand même.
Mais comment ça se fait qu'ils vous ont pas encore appelé ?
Je sais pas.
Une parenthèse, l'incarcération. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'un ancien détenu sur la façon dont il a vécu les parloirs. Thierry a 56 ans, il a été incarcéré pour la première fois à 23 ans. Au total, dans sa vie, il a cumulé plus de 10 ans de prison, des peines liées pour la plupart d'ailleurs à des braquages. Et au cours de ses différents séjours en prison, il a parfois fait le choix de ne pas avoir de visite ou de les espacer pour ménager ses proches. Lors de son dernier séjour de 3 ans à la maison d'arrêt de Corba en 2012, il a reçu la visite de son fils toutes les semaines, puis tous les 15 jours. Et au micro, il se souvient de son premier parloir et des autres.
Mon premier parloir, oui, je m'en rappelle super bien, c'était avec mon père. Ça a été trop dur pour lui de me regarder, donc j'ai vu son dos pendant 40 minutes. Il m'a dit bonjour en arrivant et il ne pouvait pas me regarder. Moi, j'avais du mal à m'exprimer. Et ça a été un choc pour lui, beaucoup plus que pour moi, même si pour moi, ça n'a pas été facile, mais... J'étais jeune, on s'adapte plus quand on a 20 ans, quoi. Mais pour lui, ça a été très, très compliqué, surtout qu'il était très, très loin de tout ce qui concerne la prison, la criminalité, ou le gangstérisme, banditisme. Pour des parents, maintenant que je suis papa, je me rends compte que ça devait être vraiment, vraiment, vraiment dur, dur, dur.
Il y a une période où vous préfériez ne plus avoir de parloir du tout.
La période d'incarcération à Paris, où j'avais pas de petit habit, pas d'enfant, j'avais mes parents, je voulais pas leur imposer ces déplacements de Paris à Lyon, de Lyon à Paris, pour 40 minutes, ça faisait trop. Entre guillemets, je me sentais plus libre de pas attendre ce moment, et le retour avec la route, vous faites du souci, les accidents, les... Tout ça, c'est un stress qui vient se greffer en plus de vos soucis judiciaires.
Vous disiez que c'est différent maintenant que vous êtes papa. Qu'est-ce qui a changé avec un fils à l'extérieur ?
Tout a changé. En ce qui me concerne, hein, j'avais une responsabilité. Quand j'étais incarcéré, il avait 12 ans. Et je suis sorti, il en avait presque 15. Sa mère me rapportait son état d'esprit quand il rentrait à la maison et... Et il se mettait à pleurer, c'était compliqué. Avec moi, non, il faisait son petit bonhomme, donc il ne mettait pas les mots. Ou il me cachait son état d'esprit. Parce que le parloir, c'est 40 minutes, mais il y a une heure d'attente pour eux dans les salles, avec la fouille, l'attente. Chacun essaye de ne pas faire du souci à l'autre. Donc c'est des sourires de façade, même si c'est des vrais sourires, même si... Ce moment de parloir est crucial, hein, pour un détenu. C'est ce qui fait que la réinsertion peut se faire ou pas. C'est clair, quelqu'un de seul, la réinsertion, moi, j'y crois pas. Mais cette demi-heure, elle est intense et en même temps, c'est tellement rapide qu'il n'y a pas de sujet profond qui se dégage. C'est pas un secret, mais tout le monde a un téléphone en cellule, en prison, ou pratiquement. Donc, je l'avais au téléphone tous les jours. Malgré l'incarcération, j'essayais de rester fort et puis de l'accepter. Et puis souvent, je rigolais au téléphone avec lui. Et un jour, il m'a envoyé en pleine gueule qu'il n'était pas content que je rigole. Ça lui paraissait bizarre que je rigole. Il m'a fait la réflexion. Il me dit « Papa, t'es en prison et tu t'éclates de rire. Je trouve ça bizarre. » Et je ne m'étais pas rendu compte que le fait de rigoler, il l'a reçu ça lui a fait presque du mal que je rigole, parce que pour lui, je prenais pas conscience de la chose, et ça m'a fait réfléchir, et j'ai compris, bien sûr, j'ai compris.
Prison et parloir, c'était un reportage de Margot Emmerich, 7 milliards de voisins. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos réactions à la suite de ce reportage sur notre WhatsApp 33 1 84 22 71 71. L'émission n'est pas terminée, on va en discuter maintenant avec une professeure chercheuse en justice criminelle aux États-Unis, Gwenola Ricordo.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Gwenola Ricordo, vous êtes là depuis le début de l'émission, vous avez écouté tout le reportage, merci. Et vous êtes professeure en justice criminelle aux États-Unis à l'Université d'État de Californie de Chico. Vous avez travaillé d'ailleurs beaucoup sur les proches des personnes incarcérées. Vous publiez Pour elles toutes, Femmes contre la prison. Déjà, votre réaction à ce que vous avez entendu sur la situation en France?
Alors, ce reportage me semble très bien illustrer ce qu'on sait, nous, en tant que sociologues, et puis ce que l'on sait aussi lorsque on a soi-même l'expérience du parloir, hein, ce qui est mon cas, puisque j'ai rendu visite à des proches pendant de nombreuses années.
Et, France, aux États-Unis?
En France. Et donc, c'est aussi ce qui a nourri mon travail de sociologue. Et ce que je trouve remarquable dans ce reportage, c'est qu'il dit bien, en fait, la peine que purgent les personnes qui ont des proches incarcérés, une peine donc qui n'est prononcée par personne, qui n'est prononcée par aucun juge, qui est une peine qui a de multiples dimensions. Et ce que disent bien toutes les personnes qu'on a entendues, c'est que c'est à la fois une peine matérielle, financière, et puis ça implique des formes de solidarité émotionnelle, hein, tout le travail de soutien. Donc vraiment, ce reportage est précieux pour montrer toutes les dimensions, en fait, de l'expérience vécue par les proches.
Ouais, les proches des détenus ne se rebellent pas, ne manifestent pas, contrairement aux détenus eux-mêmes ou aux gardiens de prison. Hein, il n'y a pas de mouvement social des proches de détenus. Donc c'est vrai qu'il y a cette chape de silence. On a reçu pas mal de témoignages et de réactions de nos auditeurs sur le continent africain. Achille est à Douala au Cameroun, il nous dit « Déchirement absolu, j'ai vu des mères, des sœurs, des frères braver des humiliations terribles, souffrir dans leur chair pour apporter un petit soutien. Je me rappellerai toujours de cette pauvre maman à qui ses enfants avaient coupé les vivres pour qu'elle ne se rende plus visiter son fils cadet délinquant, mais cette dernière trouvait toujours le moyen d'y aller. Tony aussi est à Cancan en Guinée, Conakry. Quand mes parents ont divorcé, mon père a porté plainte contre ma mère pour tentative d'empoisonnement, ce qui était archi faux, bien entendu. Elle a passé deux longues et angoissantes semaines derrière les barreaux. C'était horrible, nous dit Tony. On l'imaginait dans l'état le plus piteux, manque de tout. On priait toute la journée pour que maman nous revienne. Victor Emmanuel, aussi béninois, il dit qu'il avait un proche en prison lorsqu'il était au Bénin. C'était pas facile de voir des gens comme lui privés de leur liberté, qui ne pouvaient compter que sur des âmes de bonne volonté pour aider leur famille à l'extérieur, car c'est lorsque les gens sont incarcérés, me disait-il, qu'ils savent pour qui ils comptent vraiment. Il faut savoir que sur le continent africain, beaucoup de détenus survivent, notamment sont nourris grâce aux gamelles qu'apportent les familles des proches de détenus. Vous parlez d'un choc carcéral pour les proches.
Oui, alors c'est une expression qu'on utilise d'abord pour évoquer ce que subissent et ce qu'expérimentent les personnes qui sont incarcérées. Hein. On parle de choc carcéral pour les prisonniers. On parle aussi parfois d'un choc carcéral pour les personnels pénitentiaires. Mais on peut aussi parler d'un choc carcéral pour les proches des personnes incarcérées. Alors ce choc carcéral, il s'expérimente de façon diverse, selon les ressources individuelles, selon qu'on peut s'attendre ou pas à l'incarcération. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les témoignages. C'est à la fois cette immense douleur, ce grand moment d'incertitude, d'ignorance, ce qui revient d'ailleurs dans les témoignages que vous avez recueillis. On ne sait pas vraiment lorsqu'on va pouvoir voir la personne, lorsque le permis de visite va être accordé. Ignorance des procédures, comment apporter du linge, etc.
Et est-ce qu'il y a une différence aux États-Unis? Est-ce qu'il y a davantage de liens qui est favorisé avec les proches, les détenus?
Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de parler de la prison aux États-Unis parce qu'il y a autant de systèmes pénitentiaires qu'il y a d'États. Mais on peut quand même faire quelques généralités, à commencer par le fait que les peines sont beaucoup plus longues aux États-Unis qu'elles ne le sont en France. Hein. Dans beaucoup de systèmes, il y a des perpétuités réelles. Et d'une façon générale, quand même des conditions de visite qui sont beaucoup plus dures qu'en France. Alors, se généralise en particulier le fait que de plus en plus les parloirs et donc les lieux de visite sont remplacés par de la vidéoconférence. Ce qui fait que les contacts individuels sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus rares qu'ils ne le sont en France et qu'ils ne le sont aussi, je pense, aux voisins et voisines qui nous écoutent en Afrique que dans ces pays-là où généralement les conditions de visite sont plus longues et plus, je dirais, moins contrôlées qu'elles ne sont dans les prisons occidentales.
Ouais. L'aide aux détenus, c'est une vraie manne financière, vous le détaillez bien dans votre livre. Pour cantiner, puisque c'est le mot qui est utilisé en France, c'est-à-dire pour s'acheter du shampoing, des produits de première nécessité, il faut à peu près 100 à 150 euros par mois, donc fournis par des proches.
Oui. C'est ce qu'on estime pour vivre dignement en prison, ce qui va vraiment à compte de ce qu'on entend souvent, les prisonniers, ils vivent...
C'est comme l'hôtel, ils ont la télé.
Voilà, au frais du contribuable. Non, en fait, être pauvre en prison, c'est plus difficile qu'être pauvre à l'extérieur. Et être en prison, ça veut dire avoir toujours un certain nombre de besoins, des besoins de produits d'hygiène, des besoins souvent d'améliorer le quotidien pour ce qui est des repas, même en France.
Hein, alors, il n'en reste pas moins que l'incarcération a un coût réel pour le contribuable en France. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. Vous détaillez bien un système qui est qu'on ne connaît pas forcément en France. C'est le système JPAY aux États-Unis, qui est une société et qui permet, en fait, comme une start-up un peu, et qui permet de fluidifier les échanges entre les proches et les détenus.
Oui, alors c'est depuis une vingtaine d'années qu'on a vu se développer aux États-Unis des entreprises qui proposent d'externaliser tout ce qui concerne les relations entre les prisonniers et leurs proches. C'est-à-dire que là où auparavant on avait le système des courriers traditionnels et puis des appels téléphoniques éventuellement, ces sociétés proposent des services de messagerie instantanée de type email qui sont évidemment payants, moins chers que l'envoi d'une lettre classique, donc moins cher qu'un timbre. Ces entreprises proposent aussi des services de vidéoconférence et évidemment tout cela constitue un secteur extrêmement...
15 mails, ça coûte quand même $5.70. Hein, et l'envoi pour que des proches envoient, c'est les chiffres que vous donnez, quand on veut envoyer $135, ça coûte aux proches $13 en fait, de commission.
Voilà, alors il y a un système de commission, mais qui est à première vue attractif pour les proches, hein, puisque envoyer un mail coûte moins cher que d'envoyer un courrier classique. Et puis, ces sociétés offrent aux nouveaux utilisateurs, par exemple, 10 minutes gratuites de vidéoconférence avec la personne qui est incarcérée. Donc voilà, tout un système.
Un appel vidéo de 30 minutes, c'est ce que vous donnez comme chiffre, c'est $12.75.
Alors, effectivement, c'est extrêmement cher, mais il faut comprendre qu'on est aussi dans un système où les personnes peuvent être très éloignées du lieu de résidence de leurs proches, hein, parfois à l'autre bout des États-Unis. Donc on a aussi un marché qui est captif, hein, un marché où ces entreprises viennent combler un besoin. Alors après, en extorquant des sommes faramineuses, hein, je suis bien d'accord. Mais c'est bien, en fait, sur l'éloignement entre les prisonniers et leurs proches, hein, que ce secteur fructifie.
Ouais, les bénéfices de JPAY sont supérieurs à $60 millions par an.
Voilà, alors il faut.
Est-ce que ça s'appelle encore une entreprise sociale? Je ne sais.
Alors, cette entreprise n'a pas tellement de vocation sociale, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est très avantageux pour le système pénitentiaire lui-même, hein, puisque ça permet d'externaliser un certain nombre de frais. Par exemple, plutôt que d'avoir des surveillants qui s'occupent des parloirs, et donc d'avoir des personnels qui vont être mobilisés pour les contrôles, mais aussi de l'espace, hein, de l'espace des parloirs, l'administration pénitentiaire va déléguer ça à une entreprise de type JPAY et donc faire en fait des bénéfices à la fois sur les prisonniers et leurs proches.
Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que pour les peines longues, en tout cas, je crois que c'est un chiffre que vous citez pour la France, moins de 10% des détenus reçoivent régulièrement des visites. C'est très très peu.
Ouais. Alors, c'est effectivement assez peu. C'est pas spécifique à la France. C'est quelque chose qu'on connaît bien et qui, en fait, s'explique diversement et notamment par la durée des peines. Hein. Plus une personne est longtemps en prison, moins elle a de chances d'avoir des proches qui la soutiennent.
Ouais, notamment le couple qui, vous le dites, éclate bien souvent la première année.
Voilà, on dit souvent hein, qu'il y a une sorte de moment de vérité au début de l'incarcération. Et puis, il y a une différence qui est extrêmement importante, qui est celle entre les hommes et les femmes. Hein, on sait que les hommes qui sont détenus, et c'était évoqué dans votre reportage, reçoivent beaucoup plus de visites, de formes de soutien matériel et financier de la part de leurs proches.
Alors, il faut qu'on parle des femmes. Les femmes en prison, beaucoup moins visitées, vous le disiez, beaucoup moins aidées financièrement. Pourquoi il y a si peu de femmes dans les prisons, même pas 5% de la population carcérale? Aux États-Unis aussi, elles sont très minoritaires. Certains arguent que les juges, qui sont d'ailleurs très majoritairement des femmes, y compris aux États-Unis, est-ce qu'il y a plus de clémence de la justice à l'égard des femmes? Dans le fond, quelles sont les vraies raisons?
Alors, il y a eu beaucoup de débats scientifiques sur cette question. Il y a une hypothèse qui est assez forte, qui est celle d'une moindre délinquance et moindre criminalité des femmes. Il y a l'hypothèse que vous évoquez d'une certaine bienveillance de la justice. On parle de paternalisme judiciaire, c'est sans doute également vrai. Et puis, on sait qu'à délit ou crime égal, les femmes sont généralement condamnées à des peines plus faibles. Ce qui explique que, en bout de chaîne finale, on a moins de femmes que d'hommes qui sont incarcérés. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'autre réalité qui est celle de la dureté de la prison pour les femmes. Alors certes, elles vont moins longtemps et moins souvent en prison, mais lorsqu'elles sont incarcérées, les conséquences sociales pour elles sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont pour les hommes, notamment parce que beaucoup d'entre elles sont des mères et que malheureusement, elles perdent beaucoup plus la garde de leurs enfants et les droits qui sont liés à leurs enfants que les pères qui sont incarcérés.
Un message de Nadie à Libreville qui nous a envoyé son témoignage. Il y a 12 ans, j'allais un dimanche sur deux voir ma tante incarcérée à la prison centrale de Libreville. C'était difficile au début parce que la fin de la visite était douloureuse. Le parloir, nous dit Nadie, était organisé comme si on se retrouvait à la maison. Les prisonnières qui recevaient des visites occupaient différents tables bancs et lorsque leurs visiteurs arrivaient, ils étaient tous rassemblés autour d'elles. Les gardiennes étaient sympas, elles nous encourageaient à venir la voir. Elles disaient que les visites aident les prisonnières à tenir le coup. On a longtemps dit que les conditions carcérales pour les femmes étaient moins dures que pour les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé ?
Alors, c'est difficile de dire ça parce que la prison a été d'abord conçue pour les hommes. Et donc, les femmes sont toujours une minorité avec moins d'accès à des formations, moins d'accès au travail. Elles ne sont pas pensées comme étant les personnes qui vont être incarcérées. Et donc, c'est toujours sur le mode de la minorité qu'elles sont traitées. Et puis, leurs besoins spécifiques sont rarement pris en compte. Hein. Par exemple, pour ce qui est de la présence des enfants, de l'accès à des soins médicaux spécifiques. Donc, c'est difficile de dire qu'elles sont mieux traitées. Encore une fois, les conséquences sociales sont souvent beaucoup plus dures pour les femmes que pour les hommes.
Gwenola Ricordo, je voudrais qu'on termine cette émission sur vos positions personnelles parce que vous êtes chercheuse, professeure et militante abolitionniste. Qu'est-ce que ça signifie exactement, être abolitionniste ? Vous voulez la fin de la prison ?
La fin de la prison et du système pénal. Alors, je sais qu'en France, l'abolitionnisme ne fait pas partie des idées dont on débat dans les grands médias. C'est beaucoup plus débattu aux États-Unis. Et ça part d'une idée relativement simple, c'est que le système pénal et la prison, hein, qui n'a que 2 siècles d'existence, fonctionnent extrêmement mal. Hein. Le système pénal prévient pas la commission de crimes. On sait que les victimes sont souvent très insatisfaites de la manière dont sont traités les torts qui leur sont faits. Et donc, d'être abolitionniste, c'est de dire ce système ne fonctionne pas. Les sociétés humaines ont diverses manières, en dehors du système pénal et de l'enfermement, de traiter les torts qui leur sont faits. Je pense aux voisins et voisines de pays dans lesquels des crimes de masse ont été commis. Ils savent bien que pour sortir de ces situations-là, pour faire la paix, on ne peut pas simplement se baser sur la punition, et que faire la paix, se réconcilier, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail qui demande aussi de la générosité, et le système pénal est très peu généreux. Hein, il détruit les liens sociaux, et la paix est au contraire une recherche de l'harmonie et de s'enrichir des liens sociaux.
Alors la prison sert quand même à sanctionner et aussi à écarter les personnes dangereuses pour le reste de la société.
Oui, alors l'abolitionnisme, c'est pas de dire on va se défendre se désintéresser du tort qui peut être commis aux uns et aux autres, mais se dire que en même temps la prison ne fait que déplacer des problèmes, accentuer certains problèmes hein, si les personnes n'ont pas des ressources qui leur sont données en prison. C'est l'idée d'aller chercher vers des justices de type transformative ou réparatrice, des modes de réconciliation et de réparation.
Ouais, la réparation avec notamment des peines d'intérêt général, des travaux d'intérêt général. Le procès de Harvey Weinstein s'ouvre aujourd'hui à New York. Beaucoup d'accusatrices. Le débat que l'on a connu MeToo. Est-ce que aujourd'hui beaucoup de femmes réclament davantage de sanctions judiciaires à l'égard des hommes violents à l'égard des femmes, notamment sur les phénomènes de féminicide? Est-ce que le féminisme est compatible avec l'abolitionnisme? Parce que vous vous dites aussi féministe vous-même.
Oui, je suis féministe et abolitionniste, et je suis abolitionniste parce que je suis féministe, et que ça fait des décennies que les courants dominants du féminisme appelle à davantage de sanctions, et je partage évidemment ce sentiment de scandale face à l'impunité, notamment des crimes à caractère sexuel. Et en même temps, en tant que chercheuse spécialiste du système pénal, je ne peux que voir que le système pénal est profondément inégalitaire, et que donc tous les appels qu'on peut faire à davantage de punitions, on sait que ça va... au final, punir des catégories d'hommes, hein, en particulier les hommes issus de l'histoire coloniale et de l'histoire des migrations, les hommes issus des classes populaires, et que donc d'être féministe, mais aussi critique de la façon dont la société reproduit ces inégalités sociales et de race à travers le système pénal, me fait appeler à d'autres systèmes de résolution des conflits.
Mais alors, justement, si on rêve de la fin du système pénal, de la fin de la prison, Gwenola Ricordo, qu'est-ce qu'on ferait de Harvey Weinstein s'il est déclaré coupable?
Alors, c'est toujours compliqué de dire qu'est-ce qu'on en ferait demain matin. J'aurais certainement pas envie d'avoir cette personne comme voisin, et je suis évidemment consciente de la nécessité d'apporter une réponse aux victimes. Par contre, je ne suis pas sûre que son incarcération permette de faire diminuer les violences à caractère sexuel.
Vous n'avez pas répondu à la question. Bon.
Ça demanderait davantage de temps, et la lecture du chapitre 6 de mon livre y répond.
Eh bien, justement, pour elles toutes, hein, c'est le livre que vous publiez, Femmes contre la prison, Gwenola Ricordo. Merci d'avoir été avec nous. Votre livre est édité chez Lux. Merci à vous. Demain, 7 milliards de voisins en marche de la justice, on s'intéressera aux tribunaux populaires sur les réseaux sociaux, libération de la parole des femmes, mais aussi lynchage médiatique. Les procès 2.0 servent-ils vraiment la cause des femmes? Comment apporter une réparation aux victimes dans un état de droit? On en parlera notamment cette fois-ci avec Olivia Dufour, qui publie Justice et médias, la tentation du populisme. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler en direct. Il n'y aura pas de reportage, vous aurez le temps de nous téléphoner. 33 1 84 22 71 71. À demain.
En 2019,